Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Immo et Axéo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments avec un sujet brûlant ce mois-ci, le décret tertiaire. Dans le détail, on va voir quels sont les objectifs énergétiques définis par ce décret tertiaire, quelles vont être les méthodes utilisées, les objectifs, on le sait, sont ambitieux, sont-ils atteignables, comment les entreprises se mettent-elles en ordre de bataille pour remplir les objectifs. Autant de questions qu'on va poser à nos deux experts du jour. On est ravis d'accueillir Michaël Thérome. Bonjour Michaël.
Bonjour.
Directeur métier génie énergétique pour le bureau d'études Axéo.
On oui, tout à fait.
Axéo, bureau d'études en bâtiment spécialisé dans la performance énergétique des bâtiments existants. Bien
bonjour.
Ça, vous voulez compléter ?
C'est bien ça, tout à fait. Bien dit.
Et puis, on est ravis d'accueillir Elsa Couteau. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Vous êtes responsable du développement et RSE chez ICAD Santé. On va commencer tiens, avec vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire le métier d'ICAD Santé ?
Tout à fait. Alors, ICAD Santé, c'est une foncière de santé qui détient du patrimoine majoritairement en France, mais également en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Portugal. C'est plus de 200 établissements, plus de 2 millions de mètres carrés. Et donc, on détient l'immobilier, on porte les murs et on les loue à des opérateurs de santé.
Très bien. Eh bien, on va voir en quoi ce décret tertiaire vous impacte. Justement, le sujet, dis-moi, pourquoi on en parle, c'est tout de suite.
Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
Le décret tertiaire, voici notre sujet du mois, sujet brûlant, je l'ai dit, hein, il a été mis en place afin de répondre aux objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il impose donc aux certaines entreprises françaises de réaliser des économies d'énergie. Les enjeux sont aussi bien environnementaux qu'économiques puisque, on le sait, le bâtiment, c'est le premier consommateur d'énergie en France, environ 43% de consommation finale, d'où l'importance de ce décret tertiaire dans la transformation énergétique de notre pays. C'est vraiment un décret fondateur. Alors pour l'appuyer et favoriser l'application du décret tertiaire, le gouvernement a annoncé en septembre dernier la mise en place d'un plan de relance en partie dédié à la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires à hauteur de près de 7 milliards d'euros, 6,7 milliards exactement. Entre 2021 et 2022, 4 milliards d'euros seront ainsi consacrés aux bâtiments tertiaires publics, 2 milliards pour les logements privés, 500 millions pour les logements sociaux et 200 millions pour aider les TPE-PME à entrer dans le cadre du décret tertiaire. Voilà, on va voir comment on peut réussir à diminuer ses consommations énergétiques suivant le plan des fini. On a quoi, 25 ans pour le faire. C'est peu, c'est beaucoup à la fois. Justement, comment Axéo accompagne les entreprises, les collectivités impactées par le décret tertiaire, leur permet de transformer cette obligation réglementaire en opportunité. C'est tout de suite avec nos experts.
Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
Alors cette fois, on a vraiment, comme d'habitude d'ailleurs, hein, Michaël, besoin de vos lumières sur ce décret tertiaire. J'en ai décrit un petit bout. Plus précisément, justement, cette réglementation, elle va reposer sur quoi ?
Mais disons que cette réglementation provient de la loi Elan qui impose à l'ensemble des bâtiments tertiaires en France de réduire leur consommation énergétique, soit en valeur ce qu'on appelle relative, c'est-à-dire de réduire de moins 40, moins 50, moins 60% leur consommation, ou atteindre la performance des bâtiments neufs.
Ouais, moins 40%, ça serait objectif 2030, moins 50% 2040 et moins 60% de réduction 2050.
Exactement, oui. Ce sont des objectifs assez ambitieux.
Très ambitieux. On vous fait tout de suite réagir, Elsa. C'est vrai, quand ce décret a été promulgué, comment vous l'avez ressenti, vous qui êtes acteur, vous qui connaissez aussi le temps du bâtiment, qui est un temps long, est-ce que vous êtes tout de suite emparé du sujet ? Est-ce que c'était déjà à l'œuvre, déjà chez ICAD, ICAD Santé ?
Alors nous, on a une politique environnementale qu'on a démarrée il y a déjà un certain nombre d'années. Donc le décret tertiaire, on l'a vu venir et il s'inscrit aujourd'hui pleinement dans notre stratégie environnementale et dans notre stratégie bas carbone. Pour autant, ça fixe un cap à l'ensemble des acteurs du marché et c'est bien d'avoir un consensus autour de ces éléments réglementaires pour embarquer l'ensemble des parties prenantes. C'est ambitieux, mais c'est aussi un décret qui est monté de manière à prendre en considération les spécificités des bâtiments. Et c'est un point important qui doit aussi rassurer les acteurs du marché aujourd'hui.
Est-ce que ces objectifs sont atteignables ?
Les objectifs sont atteignables parce qu'il y a des modulations qui sont permises par ce décret, et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec des bureaux d'études et notamment avec Axéo. C'est pour faire des dossiers techniques et justement justifier de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable sur un établissement.
Très bien. Les objectifs, vous nous avez parlé, Mickaël, de valeur relative, valeur absolue. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail ?
Alors oui, cette réglementation, donc via le décret, mais aussi les arrêtés qui ont suivi, ont défini donc des seuils, donc ce qu'on appelle la consommation relative, une baisse par rapport à une année de référence qui doit être choisie entre 2010 et 2020. Donc c'est de réduire de moins 40, moins 50, moins 60 d'ici 2050. Donc ça s'appelle CRELAT. Et sinon, il y a un seuil en valeur absolue qui s'appelle CABS, qui est défini par typologie de bâtiment, bah, le monde de la santé par exemple, qui correspond à des seuils de consommation des bâtiments neufs. Donc c'est ramener progressivement les bâtiments anciens, énergivores aujourd'hui, vers la performance des bâtiments neufs.
Qui est concerné et à quelle date exactement ?
Alors, ceux qui sont, donc les bâtiments qui sont concernés, ce sont les bâtiments qui font plus de 1000 m². Par contre, l'assujettissement qui doit réduire ses consommations sont les occupants. Donc soit propriétaires occupants, soit les locataires. Donc le primo assujetti dans le bâtiment, ce sont les locataires et les propriétaires. Ensuite, ces réductions devront être justifiées via une remontée tous les ans des consommations de chacun des assujettis au sein d'un bâtiment. Si dans un bâtiment il y a 10 établissements, 10 entreprises à l'intérieur, chacun des établissements va devoir réduire ses propres consommations à horizon 2050.
Concrètement, comment ça va se matérialiser, par exemple, pour ICAD Santé ? Quel type de travaux vous envisagez ?
Alors, déjà, ça nécessite, pour rebondir sur ce point, une co-responsabilité. Donc, beaucoup de dialogue entre le propriétaire ou les propriétaires et le ou les locataires. Une fois qu'on a dit ça, il y a différentes échéances. Il y a la première qui est la déclaration sur la plateforme Opéra. Et là, c'est en septembre prochain, donc ça va arriver très vite. Et puis, ensuite, il faut s'organiser. La première étape, en tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'ensemble de notre patrimoine, pour comprendre quelle est la performance, quels sont les établissements sur lesquels on a intérêt à agir en premier. Et puis ensuite, on se focalise sur un certain nombre d'établissements et on met en marche les audits énergétiques, alors ce qui est appelé dossier technique dans le cadre du décret tertiaire. Une fois qu'on a ces audits énergétiques qui sont précieux, qui nous disent quels sont les travaux les plus pertinents, quel est le coût de ces travaux, quels sont les temps de retour sur investissement, on va pouvoir décider quels travaux prioriser et comment on organise nos plans d'action sur les prochaines années.
Justement, une précision, Elsa Couteau, quand vous dites les audits énergétiques, est-ce que vous aviez déjà, on peut imaginer une idée quand même de la consommation de ces bâtiments, ou c'est quelque chose de totalement nouveau ?
Alors, on avait bien sûr investigué il y a un certain nombre d'années. On a commencé à suivre les consommations de nos établissements en 2017. Donc, on a pris le sujet assez tôt. Aujourd'hui, on a entre 80 et 90% des consommations de nos établissements. Donc, on a déjà une belle base, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs. J'inviterais déjà tous les acteurs à se pencher sur le sujet de la consommation qui doit être le point de départ.
Les étapes, on l'a vu, Mickaël, ça arrive très vite.
Oui, ça arrive très très vite. J'aimerais revenir sur la co-responsabilité effectivement qui est prévue par le ministère, notamment entre propriétaires et preneurs à bail. Effectivement, à partir du moment où vous avez plusieurs établissements, ce qu'on appelle des entités fonctionnelles assujetties, donc ce sont des EFA dans le bâtiment, si un seul EFA rate ses objectifs au sein d'un bâtiment, il embarque son propriétaire dans toutes les conséquences de cette réglementation. C'est-à-dire que cette co-responsabilité, effectivement, le locataire ne peut pas réussir sans son propriétaire et le propriétaire ne peut pas réussir sans ses locataires. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ce que précisait Elsa, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de communication entre propriétaires et preneurs à bail pour réussir ensemble, main dans la main.
Ça va obliger à favoriser le dialogue ou à le commencer pour ceux qui ne se parlaient pas trop.
Oui, je pense effectivement que ça va permettre le dialogue.
Voilà, donc à partir de 2023, dossier technique également, dossier technique de modulation qu'il va falloir réaliser.
Effectivement, alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation de réaliser un dossier technique, mais c'est vrai que le dossier technique permet deux choses. La première, c'est de donner une vision stratégique au maître d'ouvrage qui souhaite améliorer son patrimoine en essayant de prioriser quelles sont les actions les plus efficientes pour réussir à atteindre progressivement les objectifs du décret tertiaire. Effectivement, Elsa l'a dit tout à l'heure, ça permet aussi d'adapter ses objectifs à la réalité de son bâtiment, à la vraie vie. Une fois qu'il y a des gens dedans, est-ce qu'on peut réellement atteindre les moins 40%? Et de temps en temps, ce n'est pas possible. Et du coup, le dossier de modulation va permettre de transformer, par exemple, le moins 40 en moins 33%, parce que ce bâtiment est fait d'une façon, est utilisé d'une façon, et du coup, les critères de modulation peuvent être levés, utilisés, pour justement réduire cet objectif.
Il y a des grands objectifs fixés et ensuite le plus important ça va peut-être être la trajectoire parce que ça va être difficile d'atteindre les 40 piles ou les 50 piles. Juste avant que vous rebondissiez sur ce sujet, j'ai juste une question justement sur cette année de référence. Elle paraît particulièrement importante. Est-ce qu'elle est bien choisie 2020, on se souvient, c'était en plein confinement. Il n'y avait peut-être pas une consommation optimale. Tout le monde n'était pas là. C'est assez curieux.
Oui, effectivement, l'année 2020, en fonction des secteurs d'activité, notamment la restauration, c'est clair qu'il ne faut pas choisir cette année-là comme point zéro. En fait, l'année de référence, la consommation de référence, qui doit être choisie entre 2010 et 2020, c'est le point zéro sur lequel les maîtres d'ouvrage vont s'engager à réduire ces consommations. Donc, pourquoi elle est importante? Parce qu'ensuite, elle sera inscrite dans le marbre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini sa consommation de référence, même si un droit à l'erreur, comme un peu nos impôts, est prévu, on a le droit une fois de changer sa consommation de référence. Ensuite, sur les 30 prochaines années, enfin plus que 27, les maîtres d'ouvrage vont calculer leur moins 40, moins 50, moins 60. Donc effectivement, aujourd'hui, de se tromper d'année, de ne pas choisir la bonne année, la bonne consommation de référence, peut avoir un impact très important sur les futurs investissements. C'est-à-dire que ça peut jouer quelquefois à quelques pourcents, mais en raison de la loi de Pareto, la loi des 80-20, les derniers pourcents vont coûter tellement cher que de se tromper sur la consommation de référence va occasionner plusieurs centaines d'euros par mètre carré supplémentaire d'investissement pour réussir. Donc c'est effectivement fondamental de bien la choisir.
Même question, Elsa Couteau, c'est vrai que la santé, on n'en a jamais autant parlé que ces dernières années. Hein. Et d'ailleurs, tout ce qui est EHPAD, santé, clinique, était vraiment au cœur du sujet. On a même défrayé la chronique. Pour vous, justement, est-ce que c'est bien d'avoir pris cette date référence avec une année si particulière ?
Alors, on a le choix de l'année de référence, donc ça, ça reste le point important. Et il faut bien étudier effectivement les consommations, l'activité qu'on avait dans les bâtiments. Et c'est un travail aussi d'archéologie d'aller rechercher ces informations jusqu'en 2010.
Ah bon, tout n'est pas numérisé ?
On n'y est pas tout à fait. Ça doit être l'objectif, mais l'ensemble des acteurs n'y sont pas en tout cas. Pour rebondir, c'est plutôt une bonne dynamique. Nous, on est content que le secteur de la santé soit embarqué dans ce dispositif. Certaines fois, le secteur de la santé a été mis de côté sur un certain nombre de réglementations parce que c'est compliqué aussi parce que on sauve des vies dans ces établissements. Mais il y a beaucoup à faire et c'est un beau challenge aussi pour ce secteur.
C'est tout à fait vrai ce que vous dites, puisqu'on peut imaginer que c'est compliqué de fermer ces établissements. Ce sont des établissements accueillant du public. Du coup, l'activité, il va falloir faire en même temps les travaux, en même temps que l'activité continue. C'est prévu, c'est difficile.
Tout à fait. Alors, il va falloir faire en même temps. On sait déjà le faire. Hein. Les établissements de santé vivent d'un point de vue immobilier. Il y a des extensions, des restructurations. L'immobilier est là pour accompagner l'évolution des activités médicales. Donc, on sait faire. Mais ça ne va pas être simple.
Ouais, alors pour réduire évidemment son empreinte carbone, ses consommations énergétiques, vous allez aussi faire des travaux sur différents périmètres, j'allais dire. Ce à quoi on pense le plus, c'est l'enveloppe du bâtiment, toiture, menuiserie, façade. Est-ce qu'il y a d'autres leviers ?
Alors, il y a de nombreux leviers et je pense qu'il est important de ne pas en laisser de côté. Effectivement, il y a l'enveloppe du bâtiment, le fait d'isoler les bâtiments. Il y a également tout le sujet des équipements techniques. Et puis, il va y avoir aussi le sujet de l'optimisation technique du bâtiment en fonction des usages qu'il ne faudra pas négliger.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Voilà, l'exploitation. Allez-y, Mickaël.
Oui, je voulais juste revenir sur la consommation de référence. Pourquoi le ministère a prévu ce délai 2010-2020 ? Parce que certains acteurs, comme ICAD Santé, qui n'ont pas attendu le décret tertiaire pour améliorer ces bâtiments, ces actifs, ont peut-être fait des travaux en 2016-2017. Et de pouvoir choisir une consommation qui est antérieure aux travaux énergétiques déjà réalisés permet que les économies qui ont été faites par le passé puissent participer à la réussite de l'objectif de ce type d'acteur.
Bien sûr, on peut imaginer quelqu'un qui fait des gros investissements 2018-2019, ça serait un peu
compliqué de faire moins 40 ensuite.
Moins 40 par rapport à des choses très très bien, c'est compliqué. Oui, je reviens sur le sujet des usages, l'optimisation du bâtiment à travers les usages. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comment les patients, les résidents utilisent au mieux également les bâtiments ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Oui, ça va être comment on utilise au mieux les bâtiments. Alors, de manière très simple, comment on éteint les lumières, comment on ferme les occultants, les volets quand il va faire très chaud. C'est tout un tas de petites choses, mais qui ont aussi du sens. Et quand on les met bout à bout, il n'y a pas de petites actions.
C'est d'actualité, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de, voilà, d'aller parcourir les hôpitaux pour suite se balader dans les villes la nuit. On voit tous ces bureaux allumés. On voilà, on n'a pas forcément les bons réflexes qu'on a, finalement, au niveau individuel. C'est toujours un petit peu étonnant. Là aussi, c'est quoi ? C'est de la pédagogie ? C'est sensibiliser aussi beaucoup plus, peut-être les patients, les usagers, les personnels ?
Oui, beaucoup de sensibilisation. Alors, dans les établissements de santé, c'est pas évident, parce qu'on a beaucoup de turnover, des patients qui viennent quelques jours, qui repartent. Comment on fait ? Mais il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites en termes de sensibilisation, en termes d'automatisation aussi du bâtiment, pour y concourir.
Je crois vraiment à l'automatisation, hein, parce que compter sur l'humain, c'est compliqué, effectivement. C'est bien de sensibiliser, mais c'est vrai que si on peut automatiser certaines choses, par exemple dans le monde des hôpitaux, le fait quand un patient est dans sa chambre et ouvre une fenêtre, automatiquement, ça arrête la climatisation, le chauffage. Donc c'est quelque chose qui est automatique, donc la personne peut tout à fait ouvrir, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de perte énergétique. Donc ce type d'action qui a été mis en place aujourd'hui et qui fonctionne très très bien.
Bon, alors nous faisons cette émission, évidemment, la clim, on en a besoin, mais évidemment, c'est une bonne... les occultants, par exemple, c'est vrai que ça réduit de quelques degrés, hein, 5 à 8 degrés, avec des stores très facilement, donc à utiliser. Chez ICAD, justement, comment va se passer la transition chez ICAD Santé ? Vous aviez déjà une trajectoire carbone bien arrêtée, Zacuto ?
Oui, tout à fait. On a défini une trajectoire carbone qu'on a publiée en 2021. Donc l'objectif, c'est moins 37% en intensité carbone entre 2019 et 2030. Et donc le décret tertiaire s'inscrit tout naturellement dans cette trajectoire. Mais il y a également d'autres choses. Il y a le fait d'avoir des développements, des constructions aux meilleures performances énergétiques qui concourent à cette trajectoire carbone qui est vue comme un tout, comme un ensemble. Et au cœur de la stratégie de l'entreprise.
C'est défini avec des objectifs précis, chiffrés ?
Tout à fait. Alors, autant qu'on le peut, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a pris cet objectif de ne pas dépasser le 1,5 degré qui est connu. Hein, ce sont les accords de Paris. Et puis, on a voulu concrètement regarder ce qu'il était possible de faire sur notre patrimoine. Il faut savoir, sur le secteur de la santé, il y a assez peu d'études sur les sujets de performance énergétique, parce que c'est un marché qui était moins mis en avant à un certain moment. Et donc, très concrètement, on a analysé l'ensemble de notre patrimoine. On a fait des catégories, on a pris des établissements représentatifs, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire sur ces établissements, on a fait des audits énergétiques pour faire simple, et puis on a additionné toutes les actions qui pouvaient être faites sur l'ensemble du patrimoine, de manière très macro bien sûr, pour aboutir à cet objectif de moins 37%.
Moins 37%, ben voilà, c'est pas mal, hein, déjà premier objectif très ambitieux. Tiens, une question sur Michael, sur... ce décret tertiaire, il est obligatoire pour ceux qui nous regardent, qui commencent à s'en préoccuper, c'est le moment. Est-ce qu'il est obligatoire, ce décret tertiaire ?
Ah oui, c'est une obligation réglementaire que de réduire les consommations des surfaces tertiaires assujetties, oui, tout à fait.
D'accord. Ça veut dire qu'il y aura des sanctions si ce n'était pas appliqué ?
Oui, il y a des sanctions qui sont prévues effectivement par les textes, mais plutôt des sanctions indirectes.
Alors expliquez-nous.
C'est-à-dire que le ministère s'est rendu compte sur d'autres réglementations antérieures que les sanctions financières finalement n'étaient pas très efficaces. Donc il y a une petite sanction financière de 7 500 € lorsqu'un établissement rate son objectif. Mais c'est vraiment, au regard des investissements nécessaires, c'est vraiment très très faible. Par contre, les vraies sanctions, elles viendront du marché. Donc comment a structuré le ministère, la DHUP, cette réglementation ? C'est autour du name and shame. Le name and shame, donc, c'est le fait de mettre en avant sur le site Opéra des mauvais élèves, pour que la presse puisse prendre connaissance de ces mauvais élèves, et ça fait peur aujourd'hui aux maîtres d'ouvrage. Donc c'est vrai que les grandes entreprises sont parties assez vite en disant aujourd'hui on a des clients qui sont de plus en plus sensibles à la démarche RSE des entreprises, qui mangent plus bio, etc. Et du coup d'être mis en avant, ça va jouer sur l'image de ces entreprises. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est moins connu pour le coup, c'est le fait que ça va impacter la valeur patrimoniale et locative des actifs. C'est-à-dire que le ministère a prévu que chaque année, on affiche une attestation de conformité, si vous voulez, au décret tertiaire, tous les ans, en fonction des remontées de consommation. Et cette attestation sera jointe à tout compromis de vente, acte de vente et bail de location. Par exemple, un locataire veut s'installer dans un bâtiment en 2028, il va prendre connaissance avant de signer son bail que le bâtiment est énergivore et du coup il va se retrouver lui-même assujetti et pénalisé parce qu'il s'installe dans un bâtiment qui est énergivore. Au même titre, une personne qui souhaite acheter un bâtiment, en 2028, il va prendre connaissance avant qu'il achète un bâtiment non performant, non conforme au décret tertiaire et donc va provisionner les investissements nécessaires et donc négocier le prix d'achat de l'immeuble par rapport à ça. Et donc, toute la réglementation est axée là-dessus, sur la valeur patrimoniale des actifs. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde y va, parce que sinon, les actifs vont dégringoler en termes de valeur patrimoniale.
Un parc d'actifs qui pourrait se déprécier, du name and shame pour les non-anglophones, donc c'est citer et faire honte en quelque sorte, pointer du doigt les mauvais élèves, ça c'est jamais bon, surtout quand on a un acteur coté. Ou troisième fois, la sanction financière qui paraît assez faible. Qu'est-ce qui fait bouger les lignes, à votre sens, Elsa Couteau ?
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la dynamique, hein. C'est la dynamique de l'ensemble des acteurs du marché. On voit que c'est une demande de l'ensemble de nos parties prenantes. Les investisseurs nous demandent des choses, nos clients demandent à être accompagnés. C'est la dynamique globale de l'ensemble des acteurs qui va jouer.
Mmh. Il y a un enjeu aussi sur le coût de l'énergie. Et c'est vrai qu'on se rend compte...
On n'a plus le choix, finalement.
On n'a plus le choix parce que le coût de l'énergie impacte directement l'EBE, l'excédent brut d'exploitation des entreprises, et donc la valorisation des entreprises. Et donc, il y a des actionnaires derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie qui est en train d'exploser impacte la rentabilité des entreprises. Et du coup, les entreprises souhaitent aujourd'hui avancer aussi, au-delà de leur démarche environnementale, avancer aussi pour ne pas trop être impactées. Et donc, c'est de réduire leur consommation pour payer moins demain.
C'est vrai que ce coût de l'énergie, on en parle beaucoup. Ça nous fait, en tant que consommateur, c'est un petit peu difficile, le passage à la pompe, les factures de gaz, d'électricité. Mais finalement, c'est un formidable accélérateur pour la transformation du bâtiment.
Oui, c'est peut-être un accélérateur. Nous, on est dans le secteur de la santé. Il faut regarder dans les comptes des exploitants. Ce qui coûte, c'est les charges de personnel.
Oui.
Donc, ce sera un levier. Je pense que ce sera plus un levier dans certains domaines que dans d'autres. Mais en tout cas, ça tire effectivement les choses dans le bon sens.
Pour rebondir, effectivement, j'ai pu, et je rejoins tout à fait Elsa, c'est-à-dire que la charge énergétique, le coût de l'énergie pour une entreprise est relativement faible. Oui. Néanmoins, je discutais avec un directeur d'une grande entreprise qui me disait « Ok, l'énergie ne me coûte que 3% de mon chiffre d'affaires. Par contre, mon EBE est de 1,5%. Si je réduis par deux mes consommations énergétiques telles que me le demande le décret tertiaire, je double l'EBE, donc la valorisation de mon entreprise auprès de mes actionnaires, je suis le roi du monde. Donc finalement, même si ça pèse peu, comme la marge aussi est faible, du coup ça permet cet effet de levier peut-être important.
C'est un levier à envisager également. Comment s'est perçue justement la mise en place de décret tertiaire ? Quelles sont les remontées du terrain, vous qui êtes au contact de nombreux acteurs ? Est-ce que les entreprises telles qu'ICAD Santé ont déjà pris conscience du phénomène et voilà, mettent les bouchées doubles ou pas encore ?
Je peux vous confirmer effectivement que les maîtres d'ouvrage sont partis massivement vers la rénovation énergétique. Donc je suis rassuré à titre personnel pour notre environnement. Et il y a vraiment une volonté de bien faire, quoi, de la part de ces acteurs. On a parlé RSE tout à l'heure. On a aussi beaucoup d'acteurs qui souhaitent avoir des labels ISR avec notamment les critères ESG, c'est-à-dire environnement, gouvernance et social. Alors après, certains projets sont trop flous, c'est-à-dire que certains acteurs ne savent pas par quelle boule prendre. Et du coup, c'est bien de cadrer dès le départ une stratégie pour atteindre progressivement des objectifs. Donc, en gros, les entreprises importantes aujourd'hui sont toutes au courant et ont une démarche aujourd'hui qui est structurée comme ICAD Santé. Ils savent où est-ce qu'ils vont, c'est planifié. Par contre, je constate que les petites entreprises, notamment ce qu'on appelle les établissements dans les bâtiments concernés, ne sont pas encore au courant de cette réglementation et vont se réveiller tardivement, notamment par rapport à la première échéance du 30 septembre 2022.
Ouais. Ouais, donc la rentrée risque d'être agitée.
Agité,
ouais. Elsa Couteau, une question, on sait très bien qu'il y a des grands changements comme ça, des grandes mutations, il y a aussi des freins, parfois à l'intérieur des entreprises. Justement, qu'est-ce que vous observez comme frein, comme résistance ?
Alors, on va peut-être pas parler de frein, mais en tout cas, il y a le sujet de l'accompagnement humain. Nos métiers vont changer. Alors, nous, dans des grands groupes, on a des postes de responsable RSE. Donc, on est là pour accompagner tout ça. Il y a des entreprises où il n'y a pas ça. Donc, il va y avoir un vrai sujet de sensibilisation, de formation. Il y a aussi le coût que ça va avoir. C'est pas anodin. Et donc, il faut s'y préparer. Il faut que tout le monde ait pleinement conscience de ça pour y arriver.
Et oui, on parlait de BE tout à l'heure, les directeurs financiers vont devoir faire chauffer les calculatrices et les simulations.
Oui, c'est sûr. Après, cette opportunité qu'est l'augmentation du prix de l'énergie, forcément, quand vous calculez un temps de retour sur investissement sur une action d'amélioration, donc c'est un coût divisé par un gain financier lié aux économies d'énergie. Et on constate aujourd'hui, malgré l'augmentation du prix des matériaux que l'on constate tous, qu'on a quand même globalement un temps de retour sur investissement de chacune des actions qui est en train de baisser actuellement.
Justement, dans cette équation, on l'a vu, plusieurs inconnus pour le coup. Comment Axéo vous accompagne dans cette démarche au jour le jour? Comment ça s'est structuré?
Alors, Axéo, ils font pour nous des audits énergétiques sur une partie de notre patrimoine, donc qui sont le point de départ pour déterminer ensuite quels travaux on va pouvoir engager. On s'appuie sur ces audits avec nos clients qui occupent les bâtiments de santé pour échelonner ces actions dans le temps.
Oui, puisqu'il y a plusieurs leviers, vous nous l'avez dit, les enveloppes du bâtiment, les équipements techniques, le changement de type d'énergie aussi, pourquoi pas. C'est vrai que le mix énergétique va sûrement se modifier, la décarbonation ou encore les leviers à travers les usages, on en a parlé. Finalement, j'ai l'impression, Michael Tarom, que c'est une formidable opportunité. C'est, comme d'habitude, ces textes, ils ne viennent pas de nulle part, c'est un constat. C'est d'abord une contrainte, et puis vous l'avez dit Elsa, évidemment un coût, bien évidemment, mais au final, ça sera quand même une formidable opportunité.
Oui, je pense effectivement pour les maîtres d'ouvrage, ça serait une opportunité, parce que je ne vois pas comment l'énergie pourra rebaisser un jour. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va impacter tout le monde, particulier comme entreprise. Donc c'est une opportunité et une opportunité aussi plus globale pour nous, pour notre planète. Et effectivement, on va droit dans le mur et on le constate avec cette canicule en ce moment. Voilà, c'est pas pour rien, on le constate depuis quelques années, donc il faut qu'on bouge et qu'on bouge. Mmh. Et aujourd'hui, si on peut effectivement, certes, ce sont des investissements, mais si on arrive à trouver les leviers permettant de rentabiliser ces investissements, finalement, tout le monde gagnera, quoi.
Et je rajouterais, alors nous, on y est pas particulièrement confrontés, c'est aussi un sujet de qualité et de confort dans les bâtiments. On isole un bâtiment, il va être plus résilient aux vagues de chaleur, on va y être mieux. Et alors nous, on a des patients qui sont vulnérables, donc ça nous touche tout particulièrement, mais ça touche tout à chacun.
Bien évidemment. Merci en tout cas pour ces éclairages, les uns les autres. Vous restez avec nous dans un instant, justement, les questions des auditeurs.
Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond.
Axéo nous répond. C'est parfait. Il y a pas mal de questions. Tiens, première question avec justement les sanctions. On les a évoquées, sanctions financières. Vous me disiez 7 500 euros par personne morale. C'est vrai que ça semble faible en regard des sommes à investir pour atteindre les objectifs. Ça se compte quand même plutôt en millions. Est-ce que vous ne pensez pas que certaines entreprises vont préférer payer l'amende, Michael Thuram?
Certainement, mais les sanctions indirectes vont quand même s'appliquer. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le name and shame et sur la valeur patrimoniale et locative des actifs. Donc oui, certains petits acteurs, je pense, en se disant, bon, name and shame, ok, ma petite entreprise qui est connue, qui est très peu connue, finalement, ça aura peu d'impact, ce name and shame, pour mon chiffre d'affaires, pour mon activité. Par contre, le sujet est bien, bien différent pour les grandes entreprises.
Ça veut dire qu'il y aura peut-être un décret tertiaire à deux vitesses avec les grands groupes qui sont obligés de s'y conformer pour garder leurs actifs, pour déjà leur risque de réputation aussi. Et puis les petits, finalement, qui seront en dessous du radar et qui vont se dire, bon, moi, je paye et tant pis, je me mets en accord plus tard.
Après, on se rend compte que les grandes entreprises détiennent beaucoup de patrimoine, comme ICAT Santé. Et aujourd'hui, ces grandes entreprises poussent les exploitants, les occupants, les entreprises qui occupent, à déjà les informer que le décret tertiaire existe, qu'il y a ces obligations, et les accompagnent aussi pour aller ensemble vers la réduction des consommations énergétiques. Donc par contre, effectivement, qu'on est sur des propriétaires, des entreprises qui sont propriétaires occupantes de 500 mètres carrés dans un bâtiment de 3000, là, ça peut être compliqué, oui.
Autre question, la France, on l'a vu, donc très ambitieuse sur cette transformation énergétique environnementale. Pour autant, il y a une multiplicité de territoires. Michael Terram, est-ce qu'il y a des territoires qui sont en avance, d'autres en retard, qui ont pris la mesure en fait, de ce décret tertiaire et de ces changements ?
Dans le monde du tertiaire, j'ai pas constaté de grandes différences en fonction des régions. Parce que souvent, effectivement, ceux qui sont partis, ce sont des grandes entreprises qui détiennent du patrimoine sur tout le territoire et ils ne vont pas exclusivement rénover ou améliorer des bâtiments qui sont à Strasbourg ou à Rennes ou Paris. Ils le font de partout. Par contre, effectivement, dans le monde du logement, on constate effectivement vraiment les personnes dans la partie nord de la France sont parties, ils ont 2 ans d'avance par rapport à la partie sud de la France qui souffre un peu moins des contraintes climatiques en hiver.
Même question alors à l'intérieur d'un groupe, je ne sais pas s'il y a déjà des disparités, il y a quelques secteurs qui sont en avance ou quelques établissements.
L'effet groupe fait qu'aujourd'hui on a des établissements en avance, mais il n'y a pas forcément de logique territoriale qui est liée aujourd'hui.
D'accord. Enfin, on va parler finances, le coût, Michael Terram, de l'accompagnement par Axéo, puisque on l'a vu, vous avez l'air pas mal occupé justement avec ces nouvelles réglementations. Comment est-ce que vous travaillez? Combien ça coûte?
Alors effectivement, nous avons une offre d'accompagnement qui est à tiroir en fonction de ce que souhaitent faire les maîtres d'ouvrage. Certaines choses peuvent être faites par eux-mêmes, d'autres, comme les dossiers techniques, doivent être faits par une tierce personne. En gros, sur l'accompagnement, ça va être la déclaration des entités fonctionnelles sur Opéra, même savoir si le patrimoine est assujetti ou pas. Par exemple, je vous donne un exemple, le monde de la banque, par exemple, ils ont une agence bancaire en pied d'immeuble de logement et qui fait 300 mètres carrés, ça dépend du Carrefour Market qui est à côté, dans le même immeuble, et des médecins. Et du coup, si la somme des surfaces tertiaires dépasse 1000 mètres carrés, alors ils sont assujettis. Donc ça, c'est accompagnement à tiroir. Pour revenir sur la notion de coûts, et notamment sur la partie dossier technique de modulation, donc études énergétiques, puis tout le reste, c'est entre 1 et 5 euros par mètre carré. Là, donc, un petit bâtiment, ça va être plutôt autour de 5, et gros bâtiment, quand je parle gros bâtiment, c'est à partir de 20 000 mètres carrés, autour d'un euro du mètre carré. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait un dossier technique de modulation, quand on module de 1%, on passe de moins 40 à moins 39, c'est plusieurs dizaines d'euros par mètre carré qui sont économisés en investissement demain. Et du coup, c'est pour ça que les maîtres d'ouvrage ne prennent pas longtemps pour prendre la décision de faire des dossiers techniques, parce qu'ils ont bien vu qu'en investissant en moyenne 2-3 euros par mètre carré, ils vont économiser entre 30 et 60 euros par mètre carré demain.
Et oui, on le disait, sur du temps long, Elsa Couteau, c'est vrai que c'est un formidable chantier finalement qui s'annonce. Ça va être long, ça va sûrement être peut-être des fois difficile, en tout cas un beau challenge qui s'annonce, mais c'est plutôt pour cette trajectoire, elle est importante à tenir, même si certains nous disent c'est déjà trop tard. Il faut quand même faire l'effort, et c'est le cas, je crois, que chez ICAD Santé, avec votre objectif ambitieux, hein, moins 37%.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, on ne peut que inviter l'ensemble des acteurs à s'y plonger, parce qu'effectivement, c'est des sujets qui nécessitent de sensibiliser, d'expliquer dans l'entreprise, et puis de prendre du temps pour savoir ce qu'on veut, comment on veut le faire, et aussi élaborer sa stratégie en fonction de ce décret tertiaire qui va opérationnellement être un petit peu différent dans chaque entreprise.
En tout cas, merci, c'était très clair. On en sait un petit peu plus sur ce décret tertiaire, pas évident. Hein. Un grand merci à notre invitée Elsa Couteau, responsable du développement et RSE chez ICAD Santé.
Merci.
Et puis à notre expert également, Michael Terram, directeur métier génie énergétique pour le bureau d'études Axéo. On se retrouve très prochainement pour un numéro du Bâtiment Optimisé.
Le Bâtiment Optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.